Podcastobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Stéphane Denève.
Bonjour Marc Lisman.
Alors Stéphane Denève, vous êtes de passage à Paris, qui n'est pas votre résidence on va dire principale, puisque vous êtes un maestro à Glasgow on pourrait dire, ça rime, c'est pratique. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez 38 ans, vous êtes chef d'orchestre, et vous êtes, on va dire, le titre en haut de la bannière, c'est vous êtes le directeur musical du Royal Scottish National Orchestra depuis septembre 2005 maintenant, vous attaquez votre cinquième saison. Donc, alors sans peut-être faire la saga de Tourcoing à Glasgow, parce que je crois que vous êtes né à Tourcoing.
Absolument.
On parlera évidemment un peu de votre éducation musicale, de votre parcours, toutes ces choses-là. Est-ce que quand, je ne sais pas si un jour Hollywood réalise un biopic sur vous, est-ce qu'on verra une scène où on vous voit tout petit avec un stylo à la main en train de diriger vos peluches dans votre chambre? Est-ce qu'il y avait vraiment...
Presque, bravo, effectivement. Hollywood va demander à ma maman, et ma maman vous dirait avec beaucoup de plaisir qu'elle a une photo qui est très prophétique. Et cette photo, j'ai 4 ans, précisément, je suis debout sur une chaise, j'ai une règle dans les mains, et ma maman avait à l'époque, c'était un disque noir, hein, rappelez-vous, 33 tours du Lac des Cygnes, et je dirige le Lac des Cygnes, effectivement, avec une règle, et ça avait l'air de me passionner. Il y a une photo, il y a donc une preuve de ça.
Et j'allais dire, c'est pas plus sérieusement, parce que c'est la vérité, mais comment c'est quelque chose, est-ce qu'on sait, j'allais dire, qu'on veut devenir chef d'orchestre, c'est quelque chose en soi, vous avez un parcours musical, vous avez des conservatoires, etc., ouais. Est-ce que...
J'ai commencé assez tôt. En fait, je suis un vrai produit, moi, de la sphère des amateurs, de la musique amateur dans le nord de la France. Il y a un vivier de musique amateur. Et donc, mon père jouait un tout petit peu de tuba. Il a arrêté depuis, malheureusement, mais il jouait dans une harmonie locale. Ça avait une petite orchestre amateur. Et moi, j'ai commencé la trompette. En fait, il n'y avait pas de pied dans la maison. Mais il se trouve que... et on écoutait vraiment très très peu de musique, à part ce disque, on écoutait très peu de choses. Et il se trouve qu'il y avait à l'école où j'allais, il y avait une école catholique, il y avait une vieille sœur qui donnait des cours de piano, et j'avais très très envie d'essayer. J'ai essayé, le piano m'a immédiatement plu, et elle a constaté que j'avais un peu d'oreille musicale, visiblement, et donc elle a proposé à mes parents de m'envoyer au conservatoire de Tourcoing, ce que j'ai fait. Et là, au conservatoire de Tourcoing, il y avait une classe d'initiation à la direction d'orchestre. Et c'était évidemment pour des gens plus âgés que moi, j'étais très jeune et j'avais pas encore 14 ans à l'époque, j'avais 13 ans. Et en fait, j'ai essayé d'y aller, le directeur a refusé parce qu'il trouvait que j'étais trop jeune, et ma maman a dit « mais vous savez, il est déjà très grand pour son âge ». Et cet argument, visiblement, ou peut-être le simple fait qu'elle l'a un peu ennuyé, fait qu'en fait, ce directeur a dit « bon, allez, je vais le prendre une fois, je vais le tester ». Et alors là, vraiment, je lui dois beaucoup, parce que ce directeur, qui s'appelle Bruno Mambray d'ailleurs, a vu quelque chose, puisqu'il m'a donc accepté dans sa classe, et pendant 2 ans, j'ai été initié comme ça à la direction d'orchestre. Et là, j'ai eu le virus, donc très très tôt, je me suis vraiment rendu compte que j'adorais faire de la musique avec beaucoup de gens. Et puis, même si j'ai continué mes études de piano en parallèle, j'ai vraiment très vite eu le désir d'être chef d'orchestre, et ça s'est continué.
Ça veut dire que s'il y avait un aspect un peu bicéphale, c'est-à-dire que votre approche par rapport à la musique, l'instrument lui-même, la direction de l'autre, comment ça évolue en vous à ce moment précis de votre éducation ?
Ben, en fait, je trouvais le piano formidable parce qu'évidemment, on pouvait jouer plein de choses avec un piano. C'est vraiment
on a déjà l'orchestre dans les mains.
Ben, effectivement, c'est vraiment le cas. On peut vraiment jouer beaucoup de choses au piano. Et j'aimais bien, et dès très tôt, imiter les choses que j'entendais, les retrouver au piano. C'était un jeu. Mais j'ai très vite eu le sentiment que c'était très solitaire, en fait. Et donc, j'ai très rapidement fait de la musique de chambre et très rapidement eu envie de faire de la musique avec un groupe encore plus important. Ce qui devrait être d'ailleurs de la musique de chambre en grand groupe, qui est l'orchestre.
Vous aviez des chefs de prédilection au tout début de vos envies de chef. Est-ce que vous aviez des idoles, tout simplement des...
Mais oui, absolument. J'avais une idole qui est Jean-Claude Casadesus. Parce qu'il faut savoir que dans le Nord, il est vraiment un héros. C'est un dieu vivant et il le mérite parce qu'il a beaucoup donné à cette région et il a formé l'orchestre de Lille. Et en fait, j'avais eu la chance de voir une fois... l'orchestre de Lille qui était venu dans mon petit village qui s'appelle Roncq et à l'église, et ça m'avait absolument fasciné. J'avais été vraiment très 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 marqué par ça, et c'est vrai que je lui dois beaucoup, Jean-Claude Casadesus. Beaucoup plus tard, je suis devenu son assistant d'ailleurs pendant une année, et c'est quelqu'un qui a vraiment un tel enthousiasme, une telle passion, une telle générosité que en fait ça m'a permis évidemment d'avoir effectivement un grand désir de faire le même art ou le même métier, et donc effectivement ça a commencé avec lui, et puis plus tard évidemment je suis allé à Paris au Conservatoire de Paris, et là il s'est passé quelque chose de très intéressant, c'est qu'en même temps que j'étais étudiant au conservatoire, j'ai eu la chance d'avoir le poste, j'avais besoin de gagner de l'argent, d'avoir le poste de pianiste de l'Orchestre de Paris, pianiste des chœurs de l'Orchestre de Paris, et donc là je me suis mis à voir de près et à jouer, vous savez, réduisant au piano lorsqu'on répétait avec les chœurs et les solistes, voyant beaucoup de grands chefs, et comme Giolini, comme Scholti, comme Zavalich, comme Colin Davis, tout ça, et j'ai énormément appris depuis ce poste d'accompagnateur du chœur d'orchestre de Paris.
Vous avez parlé d'assistant, vous avez été assistant de Scholti aussi, je crois, Yozawa aussi, enfin, il y a eu pas mal d'expériences comme ça. Quand on se retrouve avec des sortes de légendes vivantes, et on arrive tout de suite à oublier ça, finalement, pour pouvoir ne penser qu'à la musique.
Moi, je suis un tout petit peu midinette, je dois dire. C'est-à-dire que les gens que j'admire m'impressionnent, et c'est vrai que je suis un provincial, donc en fait j'ai beaucoup, quand j'étais adolescent, j'ai acheté des disques et je voyais ces grands chefs sur pochette, et puis voilà que je deviens étudiant conservatoire et je les vois en vrai. Donc déjà rien que conservatoire, je trouve que c'était un festival permanent, ça m'a impressionné beaucoup de voir les professeurs arriver, et ces gens qui pour moi étaient des grands noms comme ça étaient là, étaient professeurs à demeure, mais effectivement encore plus quand à l'Orchestre de Paris, quand j'ai rencontré ces immenses chefs, ces grandes personnalités comme Scholti. La chose évidemment c'est que à l'Orchestre de Paris j'étais pianiste, donc il fallait que je fasse mon travail, donc c'est vrai que je les regardais avec des yeux grands ouverts et j'étais très fasciné, mais il fallait que je joue plutôt bien, donc là très vite évidemment la réalité s'imposait à moi, j'ai vraiment beaucoup appris en jouant pour ces gens là quelqu'un comme Giulini par exemple. J'ai joué trois fois pour lui, deux fois le Requiem de Verdi et une fois une messe de Schubert. Et vraiment, c'est quelqu'un qui m'a fait croire au miracle. Moi qui ne suis pas religieux, c'est quelqu'un qui m'a montré qu'en fait, on pouvait croire en l'autre, on pouvait croire que les gens allaient jouer forcément bien. Et il m'a montré qu'on pouvait avoir un geste où il n'y avait pas un millimètre de doute. Et c'est vraiment quelque chose qui me continue à me faire réfléchir et qui continue d'être un chemin pour moi, c'est le fait d'accepter des musiciens, de prendre et de pas avoir aucun doute, même techniquement, dans une simple levée, vous savez, quand on respire pour faire partir l'orchestre, ça a l'air simple, en fait c'est le moment le plus capital, c'est un peu comme en avion, le décollage ou l'atterrissage, c'est le moment en fait le plus important, c'est le moment où on va donner l'impulsion, le rythme, le caractère, cette fameuse levée, et quelqu'un comme Giulini m'a montré qu'on pouvait juste y croire à 100%, et c'était vraiment très beau, et donc j'ai beaucoup appris avec ça. Et puis la grosse histoire, ça a été Scholti, puisque là, j'essaie de faire rapide, mais ce qui se passe, c'est que j'ai joué d'abord la Missa Solemnis pour Scholti une première fois, puis après, ça s'est bien passé, j'étais très impressionné, il était content, très bien. Un an plus tard, je joue pour lui donc la réduction au piano du château de Barbe Bleue de Bartok, On répète d'ailleurs pour l'occasion au Ritz, imaginez-vous, c'était rigolo, dans le bar de nuit du Ritz, puisqu'il logeait au Ritz et il voulait répéter au Ritz. Donc on a répété au Ritz, qui était folklorique. Et en fait, voilà qu'il apprend que je suis chef d'orchestre et il me donne sa partition. Il m'a dit « My dear young boy », avec sa voix « I will that you conduct tomorrow ». Et je lui dis « Pardon ». Il dit « Oui, et demain, je voudrais que vous dirigez l'Orchestre de Paris, je voudrais écouter dans le public un tout petit peu ». Alors, j'ai glups, évidemment, j'ai avalé ma salive, et puis j'ai pris sa partition, et j'ai passé la nuit à la regarder, à regarder les annotations. J'ai pas prévu de diriger, j'avais prévu de jouer au piano, mais pas de diriger. Et le lendemain, effectivement, il m'a fait diriger, et ça s'est très bien passé. L'orchestre était très gentil, évidemment, j'avais Scholti dans le dos quand même. Et la chose absolument incroyable, c'est que quelques mois plus tard, je reçois sur mon répondeur un message de Hugues Gall, directeur de l'Opéra de Paris, qui, à l'époque, est très impressionnant, qui me dit « Alors, monsieur Denève, je ne sais pas qui vous êtes », quelque chose comme ça, et il me dit « Mais mon cher ami Sir Georges m'envoie une lettre pour me dire que, voilà, vous recommandez chaleureusement et il voudrait que vous soyez son assistant sur le nom de Giovanni ». Et là, je me suis assis. Et plus tard, Hugues Gall, très gentiment, m'a donné la lettre, d'ailleurs. Et effectivement, ça a été absolument merveilleux. Il avait écrit une lettre de recommandation à Hugues Gall. Et c'est comme ça que je suis devenu son assistant à l'Opéra de Paris.
Alors là, tout ça, vous citez des noms, des parcours, mais bon, y a vous quand même. Vous êtes chef. Il y a un moment où, j'allais dire, les influences, le côté midinette s'efface. Et le but, c'est que vous parliez, que ça soit vous. Est-ce que dans votre parcours, il y a eu un moment où vous avez vraiment senti que ça basculait, c'est-à-dire que vraiment, parce qu'il y a aussi cet aspect, vous avez parlé de relationnel avec un orchestre, hein, vous n'êtes plus tout seul, vous avez dit arrêtez le piano et conduire, parce qu'il y avait vraiment un échange, quand on se retrouve face à un orchestre, à une phalange avec un nombre de musiciens incroyable, où l'échange doit être réel, peut-être que vous nous parlerez du côté peut-être un peu psychologique que peut avoir un chef, mais il y a affirmer ses couleurs, ses envies, ouais. Etc. Est-ce que ça s'est fait progressivement sans finalement que vous en rendiez compte, ou est-ce que dans votre parcours, il y a eu vraiment un moment où ça a vraiment basculé et vous vous êtes vraiment senti vous-même ?
Ben, écoutez, ni l'un ni l'autre, en
peut-être
fait,
pas encore.
Ce qui s'est passé... non, c'est plus grave que ça, docteur. Non, ce qui s'est passé, en fait, et je peux pas dire quand, par contre, vraiment, j'en ai pas le souvenir, mais il me semble, quasiment depuis toujours, ce qui est très étrange, et peut-être très prétentieux, mais c'est le cas, donc je suis obligé de le dire, c'est que, très vite, j'ai vraiment eu le sentiment de savoir exactement ce que je voulais. C'est-à-dire d'avoir vraiment une idée très 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 définitive, à un moment X bien sûr, de ce que j'avais envie d'entendre. Et c'est toujours le cas en ce moment, c'est-à-dire que c'est ce qui m'anime, j'ai vraiment une espèce de passion, il me semble savoir précisément ce que j'ai envie d'entendre, et du coup ça me permet d'être, j'espère convaincant, mais en tout cas convaincu de ce que je veux faire. Et c'est drôle parce que ça m'a parfois joué des tours d'ailleurs, parce qu'en répétition parfois je suis vraiment, j'aime beaucoup atteindre mes buts, et j'aime beaucoup travailler dans le détail, et en fait je sais pas, même quand j'ai dirigé, je sais pas, des orchestres comme Cleveland par exemple, ou Philadelphie, la première fois que je suis retrouvé devant Cleveland par exemple, un orchestre absolument incroyable, je me suis dit bon, là tu vas les laisser jouer quand même, hein, vraiment, je me suis préparé avant, j'ai l'impression, je me suis dit, c'est tellement un orchestre, une Rolls, tu vas les laisser jouer, tu vas être humble, etc. Et bilan des courses, après même pas 5 minutes, je dans la répétition, je les arrête en disant non, je voudrais s'il vous plaît que vous fassiez ça, et il se trouve que c'est simplement animé par la passion, c'est pas, je pense pas que ça soit de l'arrogance du tout, c'est juste, j'ai une idée très claire de ce que je veux, c'est comme ça, et j'ai envie de l'obtenir, et je travaille beaucoup à essayer de savoir comment l'obtenir le plus vite possible, ça c'est un travail, mais par contre ce que j'ai envie d'entendre, ça c'est extrêmement clair en moi. Et
quels que soient les répertoires,
c'est une bonne question. Il y a des répertoires effectivement qui sont peut-être moins évidents, mais quand même je suis assez sérieux, donc je travaille mes partitions toujours très sérieusement.
Vous avez les idées claires, on va dire.
Non, mais c'est surtout une question de travail, c'est-à-dire que si vous travaillez pas, vous savez pas de qu'est-ce qu'il y a, de quoi on parle. Mais je travaille un peu à l'ancienne, je travaille mes partitions au piano, je réduis les partitions d'orchestre au piano, et en fait cette connaissance immédiate immédiatement me fait avoir un avis très clair, c'est-à-dire que dès que je me mets à réduire une œuvre au piano, à la travailler, immédiatement s'impose à moi, en fait, c'est vraiment ça, s'impose à moi des idées interprétatives, je me dis ah oui, là il faudrait que ça soit comme ça, puis là c'est ce tempo là, puis là voilà, et je le joue au piano, et c'est très physique même, c'est très sensuel en fait, c'est juste quelque chose qui s'impose, et c'est comme ça que je le veux. Cela dit, ça m'empêche pas d'ailleurs de changer, 2-3 ans plus tard je refais une même œuvre, je la fais différemment, mais au moment précis où je la fais, les idées sont claires.
J'imagine que par rapport à ça, il y a deux aspects, deux choses différentes. Les orchestres que vous dirigez pour un concert, pour un soir, pour deux, trois concerts, vous êtes invité, etc. Et la chance d'être depuis donc cinq saisons à Glasgow, qui vous permet de faire un travail en profondeur, régulier, avec des gens, des musiciens avec lesquels vous travaillez sur la longueur. J'imagine qu'il y a ces deux aspects assez différents d'une certaine manière quand même.
Ah oui, et ça c'est formidable, parce qu'effectivement, c'est deux façons différentes de faire de la musique. Effectivement, il y en a un qui est un choc. Si je puis dire, quand vous êtes chef invité, vous arrivez devant un orchestre nouveau, ça, il y a cette espèce de rencontre immédiate et c'est une première nuit, si je puis dire. Donc ça peut être.
C'est le one night stand.
C'est le one night stand. Ça peut avoir beaucoup d'intérêt, beaucoup d'énergie et beaucoup de fraîcheur, si je puis
de
dire.
De bonnes ou de mauvaises surprises.
Comme vous y allez. Mais cela dit, j'ai découvert grâce à l'Orchestre Royal d'Écosse, qui est mon premier poste comme directeur musical, le travail sur une longue haleine. Alors là, c'est très différent. Là, c'est un peu comme le vin. Ça prend du temps, ça prend des années. On se rend compte que il y a des sous-couches comme ça de travail, de compréhension, de communication qui s'installent très progressivement. Et alors, la chose la plus évidente, c'est que ça fait gagner du temps. C'est-à-dire qu'en répétition, les musiciens savent plus rapidement s'adapter, ils imaginent déjà en avance un peu quelles sont les directions interprétatives. Mais au-delà de ça, au-delà simplement du gain de temps, je trouve qu'il y a vraiment... là aussi, je vais faire une comparaison, c'est comme un mariage, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être plus cette espèce de passion instantanée et directe et comme ça un peu...
impulsive
et très très plein de feu comme ça. Mais s'installe une relation de confiance et puis quelque chose de plus profond certainement dans la façon de faire de la musique. Il s'installe une perception plus raffinée et plus profonde effectivement qui donne d'autres types de résultats. Je répète pas de la même manière en français, en anglais, en italien, en russe, en allemand. Il se trouve que je parle un petit peu toutes ces langues et donc je répète dans la langue du pays. Et c'est drôle, ça imprime une énergie différente avec l'orchestre, effectivement, psychologiquement. Et je crois quand même que je suis plus à l'aise quand je répète en anglais, en fait. Parce que je trouve que c'est une langue très polie et qui permet de faire passer beaucoup de choses très clairement. C'est une langue très... qui est en même temps polie et directe, en fait. Et je trouve ça plus facile, en fait, de répéter en anglais.
Mais, alors, parlez-nous un peu de la spécificité, j'allais dire, des musiciens écossais, même s'il n'y a peut-être pas que des Écossais dans cet orchestre.
Non, il y a beaucoup d'Écossais, il y a beaucoup d'Anglais, ouais. Mais c'est un orchestre, effectivement, britannique, en tout cas. Il ne faut pas mélanger les Écossais et les Anglais, c'est pas la même chose.
Mais, orchestre national, en plus.
C'est un orchestre national, absolument. Non, il y a une certaine fierté écossaise qui est là, qui est là politiquement, même. Il y a un parlement écossais depuis 1999, etc. La constante britannique, en tout cas, c'est que tous ces musiciens et musiciennes ont été formés dès leur plus jeune âge à jouer ensemble. C'est-à-dire que vraiment, dès qu'un musicien, un jeune musicien ou musicienne joue trois notes sur un instrument, quel qu'il soit, on leur fait jouer ces trois notes avec quelqu'un d'autre qui joue trois notes. Et non seulement il y a ça dès le départ, mais il y a aussi énormément de travail choral dans les écoles, ils ont tous des chœurs, c'est incroyable. Il y a aussi beaucoup d'orchestres de jeunes de tous les niveaux. Et c'est vraiment une tradition tellement, tellement forte de jouer ensemble, de s'écouter, que ça se ressent très très fort. En fait, parfois je dis à l'orchestre, d'ailleurs je leur dis, en écho, je dis, pouvez jouer un peu moins ensemble s'il vous plaît. Parce qu'ils jouent vraiment comme un seul corps tout le temps. Ils ont vraiment cette science de l'écoute. Et ça c'est formidable, ça fait gagner un temps fou. C'est-à-dire que je vous assure, quand vous prenez n'importe quelle œuvre du répertoire, on va dire, hein, traditionnel, symphonique, la première lecture, la première répétition, c'est techniquement déjà quasi parfait. Vraiment, c'est le niveau de base est très très élevé. Et donc c'est formidable parce que vous pouvez immédiatement vous focaliser sur l'élément imaginatif, sur l'élément interprétatif, sur la musique en clair. Ça c'est une constante. Donc il y a vraiment cette capacité à jouer ensemble, cette écoute vraiment qui est formidable. L'autre chose que j'aime beaucoup beaucoup, alors là qui est peut-être encore plus écossaise si je puis dire, c'est la générosité. C'est un orchestre qui joue vraiment tout le temps à 150%, qui donne énormément. Il y a une grande fierté. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un petit pays, l'Écosse. Il y a cette espèce de grand désir de bien faire. Et ça se retrouve non seulement, évidemment, sur la scène, en concert, mais aussi en répétition, mais aussi, par exemple, on joue toutes les semaines. L'Orchestre Royal d'Écosse joue toutes les semaines à Glasgow et Édimbourg. Donc, ce sont deux salles qu'on connaît très bien. Eh bien, pour chaque concert, chaque fois, on a une demi-heure de répétition juste avant le concert. Et c'est pas quelque chose qui leur est imposé. L'orchestre est un peu autogéré. Ils pourraient décider de ne pas faire cette répétition. Mais ils veulent la faire. Et on a vraiment toujours une demi-heure de répétition, ce qui est un luxe merveilleux. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve très très beau. C'est leur générosité. Et puis autre chose aussi, c'est versatile. C'est-à-dire qu'ils passent d'un répertoire à l'autre très facilement. Et c'est un orchestre cultivé. Il y a vraiment une connaissance de la musique qui est profonde. Donc très vite, ils sont très ouverts. Très vite, on peut aller loin dans le style. Et je peux vraiment demander très vite, vous avez une couleur de vibrato qui convient à Dvorak, à Brahms, ou alors à Mozart. C'est vraiment des orchestres très, très versatiles.
Quand vous avez pris les commandes de cet orchestre en 2005, donc vous avez l'avantage de savoir que ça allait durer quand même quelques années, est-ce que vous aviez vraiment à l'esprit une sorte de plan de travail, de parcours, vous aviez vraiment des envies, déjà des balises vraiment très claires dans votre tête par rapport au répertoire, à la construction, etc., ce que vous vouliez développer. C'est venu progressivement.
Non, j'ai vraiment essayé d'analyser un peu là où était l'orchestre. Et en fait, j'avais beaucoup de chance que l'orchestre était une espèce de belle au bois dormant. C'est-à-dire que l'orchestre jouait très très bien, de toute façon, vraiment très très bien. Ils ne m'ont pas attendu pour jouer bien. Mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas eu depuis longtemps, depuis Sir Alexander Gibson, qui était mon prédécesseur bien longtemps avant, ils n'avaient pas eu de chef permanent qui habitait sur place et qui vraiment étudie et travaille sur la programmation, sur le choix des œuvres, qui est une vraie politique de cohérence, etc. Donc j'ai vraiment étudié ça de très près et ça m'a permis tout de suite d'avoir effectivement quelques plans très clairs. Donc par exemple, j'ai tout de suite voulu faire des saisons avec un thème, très clairement un fil rouge. Qui permet en fait, le fil rouge permet souvent d'avoir des œuvres plus rares, puisque on peut jouer ces œuvres avec la légitimité de faire partie d'un thème. On a créé une nouvelle série que j'adore, qui s'appelle Naked Classic, qui est une espèce de soirée edutainment, comme on dit, c'est-à-dire d'espèce de show où en première partie on explique une œuvre avec des moyens multimédia, avec un présentateur très très sympa et très très drôle et tout ça est très moderne avec beaucoup de participation d'orchestre, et puis après on joue l'œuvre en deuxième partie. Et puis j'avais aussi, je dois dire, mes propres désirs, puisque étant directeur musical, évidemment, on a plus de poids, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le choix de la programmation, et donc je me suis retrouvé un peu comme un enfant dans un magasin de jouets. Je me suis dit, bon, alors voilà, ça, je veux ça, je veux ça. Et donc c'est vrai que tout en respectant évidemment les besoins de l'orchestre, les désirs de l'orchestre, leur envie, on a un comité hein, de artistique dans l'orchestre qui propose, tout en respectant ça, j'ai évidemment voulu aussi aller dans certaines directions. Par exemple, je suis un grand fan de Roussel. J'adore cette musique. Et elle est trop rarement jouée.
C'est plus que le jouet, puisque ça m'a été enregistré donc, chez Naxos, puisque Naxos a sorti des...
Absolument. On a maintenant sorti déjà trois disques de Roussel. Il y en a encore deux un qui est déjà enregistré, encore un autre. Oui, c'est, ça, c'est un vrai projet de longue haleine qui était d'enregistrer l'intégrale de la musique symphonique. Et là, pour le coup, je suis ravi parce que c'était un vrai risque d'imposer Roussel, qui n'était pas du tout connu en Écosse. Mais il se trouve que l'orchestre a aimé ça dès le départ et qu'il y a eu vraiment une adéquation entre... Vous savez, Roussel, c'est étrange. Roussel, il est influencé par le nord de l'Europe. Il a ce côté un peu presque flamand, comme ça, hein, et un peu austère parfois, un peu logique, un peu mathématique, un peu sentimental, un peu comme toute cette partie de l'Europe. Mais il est aussi très latin, il est définitivement français. Il a ce côté fantasque, coloré, plein de sanguin, comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, j'ai retrouvé un peu cette même géographie des sentiments en Écosse. Je trouve qu'il y a un peu, ce même alliage et qui fait que je pense qu'ils étaient faits pour aimer cette musique. Et ouais, ça marche bien.
Justement, quand on arrive à ce que ça devienne même un disque, que ça puisse être enregistré, ce genre de répertoire, est-ce que pour vous c'est important? C'est-à-dire que quand vous... Il y a des choix qui doivent être faits quant à non seulement des concerts, mais surtout des enregistrements, des choses qui sont censées rester, de faire attention à ce qui a eu jusqu'ici, c'est-à-dire de ne pas enregistrer une œuvre qui a été peut-être, qui existe en 500 000 versions. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un répertoire qui est, vous dites, inconnu là-bas, mais on ne peut pas dire non plus qu'en France, même, ça soit encore très très populaire et qu'on joue Roussel 15 fois par semaine dans toutes les salles de concert. Est-ce que c'est important aussi pour vous de remettre un peu en avant des compositeurs ou des œuvres qui sont importantes et qui sont parfois délaissées, oubliées ou peu enregistrées?
Oui, je ne me sens pas vraiment un tempérament de missionnaire. Je veux dire que je suis quand même guidé par mon propre plaisir, j'en ai peur. Mais cela dit, comme on dit dans les pays anglo-saxons, le mieux c'est une win-win situation. Donc quand tout le monde y gagne, en l'occurrence là ça c'était formidable parce que j'ai pu, comme on dit en anglais, to champion ce compositeur Roussel, et en même temps il se trouve qu'effectivement il a besoin d'être défendu parce qu'il n'est pas joué si souvent même ici. Donc c'était le cas. Cela dit aussi, soyons humbles, enfin je vais pas me mettre à enregistrer symphonie de Beethoven avec l'Orchestre royal d'Écosse, ça serait idiot vraiment, parce que
on sait très bien malgré tout que... Alors là, c'est peut-être un autre débat sur les politiques éditoriales des maisons de disques. On sait que là, on est dans une année Chopin, on va revoir des intégrales. Alors évidemment, c'est pas pour un orchestre, mais des intégrales de valse, des intégrales, etc. Donc il y a quand même des œuvres. Est-ce que parfois, ça peut jouer des œuvres qui vont vous toucher, mais qui ont été tellement enregistrées que finalement, on a presque plus envie de les enregistrer. Même si vous avez dit, avant tout, c'est votre plaisir personnel et c'est vos envies qui comptent.
Ben, oui, ça peut être intimidant, effectivement, mais... cela dit, moi, je sais pas, il y a des choses que j'aime beaucoup. Par exemple, Poulain, j'aime énormément ce compositeur et j'aimerais beaucoup dans le futur faire des projets discographiques sur ce compositeur. Il y a aussi parfois un côté un témoignage. Donc par exemple avec l'Orchestre royal d'Écosse, on a fait pas mal de tournées, on avait beaucoup de Debussy Alors là, j'ai la prétention de croire qu'on a développé notre interprétation de Debussy. Je dis pas qu'elle est meilleure, mais en tout cas qu'elle est personnelle. Et on a eu vraiment quelques concerts, dont un dont je me souviens avec beaucoup d'émotion au Proms de Londres, où vraiment l'orchestre avait sonné pour moi du feu de Dieu. Et donc, par exemple, je pense que pour saluer ces années d'études de l'œuvre de Debussy, par exemple, ça serait formidable de faire un témoignage de ça, même si Debussy a été beaucoup enregistré. Mais je pense là pour le coup, ça a une légitimité. Mais en fait, je suis effectivement très ouvert à beaucoup d'idées. Je trouve que qu'on ait la chance d'enregistrer, c'est pas si facile. Donc, je veux dire, quand une opportunité se propose et qu'elle est excitante, il faut la prendre.
Quelle valeur vous donnez justement à l'enregistrement, au disque, pour vous? Qu'est-ce que ça représente, un instant qu'on grave? Est-ce que c'est... c'est pas la scène contre le disque, mais quelle valeur pour vous hein?
Alors j'ai complètement changé d'avis par rapport à ça. C'est-à-dire, si vous m'aviez posé la question il y a ne serait-ce que 5 ans, je vous aurais dit le disque c'est un objet artificiel, en fait, c'est le live, vraiment, mais l'orchestre joue tellement bien que maintenant il faudrait qu'on sorte que des lives, etc. Et alors, ça c'était mon point de vue il y a quelques années. J'ai vraiment complètement changé parce que mes expériences discographiques m'ont montré que, en fait, le disque était un vrai média qui permet de réaliser des rêves qui ne sont pas possibles vraiment en concert, ou en tout cas pas possibles comme ça. C'est que le concert c'est une chose, et le disque c'est autre chose. Et on peut avoir des moments d'inspiration au concert absolument sublimes qui bizarrement ne vont pas vraiment passer au disque en fait. C'est pas vraiment... On ne va pas avoir le même sentiment que les gens parfois écoutent des lives et tiens c'est drôle, j'y étais, c'était formidable. Et, bon, là. Et le contraire en définitive, il y a des choses qui pourraient paraître ennuyeuses, presque ennuyeuses si je puis dire, en concert, et qui en fait au disque se révèlent en fait, beaucoup plus attrayants parce que c'est une autre écoute. Et je suis devenu très pro-disque et pro-disque travaillé, si je puis dire, disque avec vraiment, avec une vraie recherche pour trouver les bonnes prises qui fonctionnent, qui vont permettre les transitions, etc. Et je trouve que la technique, pour le coup, maintenant, en fait, elle est pas du tout... les gens disent « Ah, ça, c'est de la triche ». En fait, non, je pense que c'est vraiment comme un film en définitive. On fait un film, on filme, et puis après il y a le montage, et un montage peut détruire un film ou le rendre génial. Et je pense que vraiment, je respecte, j'ai vu ça, j'ai rencontré des très très bons monteurs, par exemple, et je respecte ce travail, et je trouve que c'est extraordinaire. Ça permet en fait de vraiment créer un objet musical qui est très, très, très particulier et qui ne serait pas forcément possible en concert. Et ça me plaît beaucoup. Et donc, du coup, je commence à aimer beaucoup, beaucoup ça, le vrai studio et beaucoup moins le live.
Et les disques des autres, est-ce que vous écoutez beaucoup de musique? Est-ce que quand vous êtes dans un avion, vous avez un casque avec votre iPod? Est-ce que vous, chez vous, il y a de la musique tout le temps? Ou comment ça se passe? Quel rapport vous avez avec
enregistré? C'est étrange, en fait, parce que je crois que c'est le cas pour beaucoup de musiciens, mais en fait, j'écoute quasiment jamais de la musique, entre guillemets, pour le plaisir seulement. C'est-à-dire... ce que les gens font normalement, les mélomanes, ils mettent un disque parce qu'ils ont envie d'écouter ce disque-là, et puis ils l'écoutent, et puis ils prennent du temps, ils s'assoient, ils écoutent. En fait, moi, si j'écoute un disque, c'est vraiment parce que je veux écouter une interprétation, je voudrais comprendre quelque chose, ou je voudrais vérifier quelque chose. Donc, en fait, quand j'étudie une œuvre nouvelle, j'étudie au piano, je réduis au piano, etc. Et puis, après, je me dis, ah, c'est étrange. Et j'essaie de voir, alors il y a des outils merveilleux maintenant, hein, okay, sur Internet, etc. On peut avoir accès sur avec fameuse, la Naxos Music Library, par exemple. J'adore ce serveur qui peut immédiatement, on peut très rapidement zapper, écouter des petits bouts de quelque chose pour se rendre compte de comment ça fonctionne. Et donc, c'est vrai que j'écoute de la musique seulement dans le but, en fait, de me cultiver interprétativement, en fait, de comparer les époques, ce genre de choses. Parce que sinon, je dois vous dire, sinon, comme je dirige beaucoup, je travaille beaucoup, beaucoup, donc je fais beaucoup de répétitions, sinon rien ne vaut que le silence, vraiment, à la maison. Non, j'aime pas du tout, par exemple, la musique en fond. Je sais pas faire ça. Mmh. Je suis un d'ailleurs très mal poli dans beaucoup de restaurants. Très fréquemment, en fait, il m'arrive de demander d'abord gentiment, puis moins gentiment, de dire « est-ce qu'on peut baisser la musique ?» C'est très difficile pour moi de rester concentré s'il y a de la musique de fond.
Alors, dans les compositeurs, vous travaillez aussi dans l'éclectisme de répertoire abordé, aussi les compositeurs contemporains. Il y a Guillaume Connaisson, qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps chez Cobuz, avec lequel vous travaillez. Travaillez avec un compositeur vivant avec qui on peut parler, poser des questions, échanger. C'est quelque chose d'un peu à part et unique. Comment ça vient dans votre univers musical?
Ça, c'est aussi quelque chose qui est en train de changer de plus en plus. C'est-à-dire que je me rends compte, en fait, que je suis, entre guillemets, faut pas exagérer, mais de moins en moins intéressé par le répertoire et de plus en plus intéressé par la créativité de travailler avec un compositeur vivant. Et vraiment, je dis pas ça pour être politiquement correct, parce que c'est vraiment une réalité. J'espère ne jamais perdre le feu sacré par rapport au grand chef-d'œuvre du répertoire. J'espère que dans 50 ans, si je dirige encore, que si je refais La Mère de Debussy, que ça va toujours m'exciter autant que ça m'excite maintenant. Mais Récemment, la chose qui a été la plus satisfaisante artistiquement, ça a été effectivement le travail avec Guillaume Connaisson. Parce que là, vraiment, on a travaillé depuis la base. C'est-à-dire que dès qu'il a commencé à avoir des esquisses, il me les a montrées. Et puis après, plus tard, alors, j'ai pas la prétention de dire que j'ai influencé son œuvre, hein, mais cela dit, on a des discussions et je sens que ces discussions, il les respecte et il les écoute et ça le fait réfléchir. Il a le point de vue du chef d'orchestre, si vous voulez, le point de vue de l'interprète et comme c'est quelqu'un qui écrit vraiment de la musique avec un M majuscule et qui écrit pour les interprètes, ça permet un vrai dialogue et ça c'est extraordinairement excitant parce que je suis pas un compositeur frustré, mais c'est vrai que je suis malheureusement pas un compositeur. J'ai pas cette patience. J'ai pas ce talent, tout simplement. Je me mets pas. Il faut être compositeur. Il faut se mettre devant une page et essayer de trouver quelque chose. Je prends pas ce temps-là. C'est pas moi. Mais c'est vraiment quelque chose qui je sens est tellement enrichissant et que je n'ai pas que effectivement peut-être un peu en transitivité comme ça. Je vis ça un petit peu grâce aux compositeurs et notamment Guillaume. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu récemment. Et j'ai vraiment envie de diriger de plus en plus de musique de notre temps. D'autant plus que je trouve qu'on est à une époque assez fascinante où il y a beaucoup de très bonne musique qui est écrite et que la beauté, que la notion de plaisir, que la notion d'harmonie, que tout ça revient après des années, on le sait, de musique principalement expérimentale, où les gens cherchaient plus que ne trouvaient, si je puis dire. Je trouve que là, il y a toute une génération qui revient vers une dynamique plus saine d'écrire effectivement une combinaison de musique, d'harmonie, de rythme, et puis qui n'ont pas peur évidemment qui assument le fait d'utiliser un langage qui existait avant eux et qui n'ont pas cette prétention d'imaginer qu'il faille inventer un nouveau langage, qu'ils utilisent le langage tonal la plupart du temps et que ce langage-là en fait peut leur permettre d'exprimer l'air du temps, d'exprimer leur propre être et ça c'est un moment assez beau. Je pense que vraiment je suis content de ne pas être dans la génération un peu sacrifiée des années 60-70.
Quand justement vous êtes dans ce genre de situation avec les compositeurs contemporains, cette donnée unique, c'est-à-dire d'avoir l'orchestre, vous, la partition, mais en plus la personne qui a écrit la partition, contrairement à quand vous dirigez du Debussy, est-ce que ça a une influence aussi, cette situation originale, sur votre façon de diriger? Est-ce que vous voyez la direction de l'orchestre différemment? À partir du moment où vous savez qu'il y a en plus dans le schéma, cette relation et cette discussion, ce dialogue avec le compositeur, est-ce que ça vous fait voir la direction d'orchestre différemment?
Ben oui, parce que c'est pas les mêmes, pas tout à fait les mêmes priorités effectivement. C'est que là subitement, vous avez une espèce de mission très forte de comprendre ce que le compositeur veut et il peut vous le dire. Donc il peut réagir en direct. Donc ça fait une espèce de triangulation que je trouve vraiment passionnante en fait. Et moi j'aime beaucoup en fait. Bizarrement, je demande souvent aux gens de me critiquer et j'explique vraiment. Je dis non, mais pas des compliments. Vraiment, c'est pas pour me dire ah c'était beau. Non, dites-moi. J'adore en fait. Parfois je dis j'aime bien avoir un os à ronger. J'aime bien avoir des défis. J'aime bien qu'on me dise tu sais là il y a un truc. Je sais pas. Et j'aime bien pouvoir du coup essayer de trouver une solution. Et c'est très excitant pour moi d'essayer de trouver comme ça des nouvelles possibilités, de juste trouver quoi, juste être dans la créativité, genre trouver des choses. Et avec un compositeur, c'est ce qui se passe. Et vraiment, il y a beaucoup de gens que je trouve passionnants. Je peux vous donner quelques noms. Donc Guillaume, évidemment, que j'aime beaucoup, Guillaume Connaisson. Mais je trouve la musique de Magnus Lindberg vraiment passionnante. J'aime beaucoup la musique d'Adams, évidemment, son dernier opéra. Formidable. J'aime bien Lieberson, j'aime bien beaucoup Macmillan, qui est un compositeur écossais absolument merveilleux, qui vient d'écrire lui aussi un opéra qui s'appelle Sacrifice et qui est très très émouvant. Voilà, il y a pas mal de compositeurs américains intéressants, je dois dire. Donc on a cité Adams, mais il y a un type qui s'appelle Lieberson, il y a Christopher Roos, il y a Jennifer Higdon, Corigliano, c'est vraiment Aaron J. Kanis, il y a vraiment, vraiment un grand nom. Et puis il y a beaucoup de gens scandinaves que je trouve passionnants aussi. Donc Salonen, qui en plus d'être un très bon chef, fait de la musique absolument étonnante aussi. Et puis voilà, il y a Sarajao, enfin, et puis on a d'autres
choses enregistrées donc.
Je trouve qu'il y a, j'ai vraiment envie de plus en plus de faire cette musique et vraiment pas du tout par sentiment de mission, parce que c'est pas le cas, mais juste par plaisir, juste parce que c'est vraiment vraiment excitant, et puis c'est juste une musique qui me parle, qui me parle de ma vie, de mon univers, de mon imaginaire. Enfin, je trouve que dans la musique de Guillaume, par exemple, je trouve qu'il y a une poésie qui est de maintenant. La science-fiction qui est là-dedans, le visuel qui est dans cette musique, on sent qu'il y a du digital, qu'il y a du disco, qu'il y a tout plein de choses, toutes ces choses qui en fait sont des influences actuelles.
Ajouter encore dans vos multiples passions, il y a l'opéra aussi. Je crois que vous avez dirigé à la Scala en juin, Fausse de Gounod. Vous allez diriger en juin. Pareil, l'opéra, qu'est-ce que dans toutes les planètes qui sont toutes votre tête, il a évolué déjà dans votre direction, comment il est arrivé, comment il a vécu.
J'ai découvert le fait d'être un chef d'opéra au Conservatoire de Paris, où on avait fait quelques scènes de P.S. et Mélisande de Debussy, qui est d'ailleurs au demeurant devenu mon opéra préféré, là pour le coup. C'est bien parce que souvent les journalistes demandent alors quel est votre répertoire préféré, votre œuvre préférée, et là pour une fois j'ai une réponse. Au lieu de souvent de dire non, vous savez, c'est ce que je fais en ce moment, là je peux dire P.S. et Mélisande, c'est mon opéra préféré, j'adore ça. Et donc j'en ai dirigé quelques scènes au Conservatoire, je me suis dit oh là là, ça c'est ce que je veux faire, ça me plaît à mort. Et puis effectivement, en fait, ma carrière a plutôt commencé à l'opéra. Au Festival de Saint-Céré, j'ai fait quelques opéras, puis ça m'a fait diriger à Compiègne à l'époque, et puis après j'étais assistant à l'Opéra de Paris, et puis je suis devenu Kapellmeister, imaginez-vous, à Düsseldorf, et pendant 4 saisons, j'ai dirigé donc le Deutsche Oper am Rhein, et j'étais un des chefs permanents, un des Kapellmeister, et j'ai dirigé 25 opéras différents en 4 ans. J'ai travaillé comme un fou pour apprendre toutes ces œuvres, et ça m'a plu à mort, et donc j'ai commencé ma carrière vraiment plutôt comme un chef d'opéra en fait, hein. Je faisais plutôt 70% d'opéra et 30% de symphonie, quelque chose comme ça. J'ai toujours fait les deux, cela dit, j'ai jamais fait l'un que l'un, mais que l'un ou l'autre, mais j'ai fait beaucoup d'opéra, donc à l'Opéra de Paris j'ai fait 10 productions, imaginez-vous, c'est beaucoup aussi, et puis voilà. Et puis maintenant, c'est un peu étrange, le symphonique a pris le dessus, et c'est très difficile de trouver le temps pour faire de l'opéra. J'essaie vraiment de préserver au moins un ou deux opéras par an, mais c'est le maximum que je puisse faire en termes de planning, de calendrier. Et donc, l'année dernière, j'ai fait par exemple Carmen à Kleinburn, ce qui était formidable. Cette année, je vais faire une nouvelle production de Faust à la Scala, ce qui est assez excitant. Et puis, plus tard, je vais aller au Liceo de Barcelone pour faire Ariane et Barbe Bleue, Duchamp. Et voilà, et d'autres projets assez excitants aussi, un dialogue carmélite bientôt. Et ça me manque, parce que je trouve j'adore les chanteurs d'abord. Pour être chef d'opéra, il y a la loi première, c'est il faut les aimer, les chanteurs. Il faut juste les aimer très fort, vraiment. Et c'est le cas. J'adore les chanteurs. Encore une fois, c'est aussi les servir. J'adore le fait d'essayer de respirer avec eux. Je trouve vraiment, là, dans la direction, il y a une chose qui est très belle et qui est très rare dans notre monde, c'est d'essayer d'être vraiment ensemble, au sens le plus fort du terme. C'est vraiment, vraiment de partager quelque chose, une émotion si forte ensemble. C'est vraiment quelque chose que permet la direction d'orchestre. Et c'est presque d'une manière télépathique, comme ça. Et c'est assez miraculeux, ça, je trouve ça très beau.
On a l'impression en fait que votre vie musicale est une sorte de flot violent qui ne s'arrête pas entre l'opéra, les envies par rapport aux compositeurs contemporains, toutes les expériences que vous avez eues déjà. Est-ce qu'il y a des moments, je ne sais pas, où vous avez envie d'appuyer sur pause et d'essayer de filtrer tout ça, de voir, est-ce que finalement vous êtes pris dans une sorte d'envie permanente, parce qu'on sent qu'il y a une passion dans votre ton, dans tout ce que vous racontez, qui n'a pas l'air, qui est sincère, etc., qui est vous, etc. Mais est-ce que il y a des moments, vous avez parlé tout à l'heure, vous dites que je suis dans un restaurant, j'en ai marre, j'ai envie demander d'arrêter le fond sonore, comme on dit, enfin la musique de fond, qui est effectivement présente partout maintenant dans un ascenseur, dans les supermarchés, pas de la musique finalement. Est-ce que par rapport justement à ça, vous avez emmagasiné une connaissance, une culture musicale, et puis est-ce qu'il y a des moments où on est une sorte de trop-plein ou quelque chose, ou non, finalement on est pris là-dedans et
Ben là, je suis obligé de parler un peu de ma vie privée parce que il se passe quelque chose juste là précisément depuis exactement 23 mois, qui est que ma femme et moi avons une petite fille qui s'appelle Alma, et c'est une joie profonde cette enfant en fait. Si j'avais su que ça me plairait autant, j'en aurais fait plus tôt, mais des enfants. Pas que j'ai pas essayé, mais bref, mais en fait, c'est vraiment vraiment là pour le coup un vrai choix de vie parce que j'ai beaucoup de mal à dire non. Je trouve que c'est tellement merveilleux de faire ce métier et de voyager. J'adore voyager en plus, donc rencontrer des gens. Donc c'est vrai que c'est très dur pour moi de ma femme essayer de m'aider à dire alors ça c'est une semaine où là on l'a c'est non donc on met sur notre calendrier keep free et on essaie mais il n'y en a pas beaucoup hein, et c'est vraiment très difficile mais j'ai la motivation suprême là qui est cet enfant qui a besoin de moi et alors je rends grâce à Skype vidéo qui me permet de la voir le plus souvent possible en vidéo et de communiquer grâce à la vidéo quand je suis pas là. Et puis cela dit, jusqu'à présent, on a beaucoup beaucoup voyagé ensemble. Elle est venue avec moi sur la côte ouest des États-Unis, la côte est. On a été en Chine, en Corée. Elle a beaucoup voyagé cette petite déjà. Mais ça, c'est un vrai problème actuel, c'est de me dire, ok, quelle est la quantité de travail et la quantité de famille, de temps pour la famille que je veux m'accorder. Et effectivement, vous avez raison. Le problème, c'est que que ça me plaît pour l'instant. J'ai vraiment l'impression. Alors, pour répondre à votre question par rapport simplement au trop-plein musical, je peux être fatigué parfois, effectivement, physiquement, hein, quand il y a. Parfois, ce qui me fatigue, c'est de voir la hauteur de la pile de partitions à apprendre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est vraiment le tonneau des Danaïdes, quoi. Ça se finira jamais. J'ai l'impression d'avoir un répertoire déjà de je sais pas combien d'œuvres. Et puis, je crois que j'ai fait un petit calcul. Il me semble que les 5 dernières années, je crois que j'ai appris 125 œuvres, quelque chose comme ça. Enfin, bon.
Ça vous fait peur ou pas, finalement, d'une certaine manière? C'est-à-dire que c'est un choix. C'est vous qui avez. Voilà, si vous êtes dans. Mais est-ce qu'il y a des moments où.
Bah oui, j'aurais peur d'une chose, c'est de me noyer, de pas plus avoir quelque chose à dire ou de plus avoir les idées claires. Donc, le jour où ça m'arrive, peut-être ça sera une dépression, peut-être ça sera une remise en
Je
question.
ne souhaite pas.
Ben non, mais ça peut arriver. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est-à-dire pour l'instant, effectivement, je prends tout ça avec beaucoup de joie et de bonheur, sincère. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression du tout d'être ni blasé, ce serait le pire, ni comment dire, ni je bâcle pas. Je continue à travailler les partitions, J'adore la proximité avec les compositeurs. Donc non, pour l'instant, vraiment, je peux dire que j'ai pas vraiment ce moment où j'ai envie de faire une vraie pause. J'ai juste, par contre, très humainement, parfois, des jours où je me sens un peu crevé, et puis c'est tout, quoi. Je me sens pas... Il y a pire, hein, il y a Gergiev, par exemple, qui, je sais pas comment il fait, il arrête pas une seconde, il enchaîne les répertoires, les concerts, de manière encore plus folle que moi, bien plus folle que moi. Mais en tout cas, vraiment, je voudrais me donner du temps pour Alma. C'est un autre bonheur, mais il est tout aussi grand.
On va vous laisser partir voir Alma. Merci, Stéphane Deneuve.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.